Alors, ce matin, on va regarder les passages dans chapitre 3, versets 5 à 17. Juste pour faire un résumé des dernières semaines, dans le chapitre 2, verset 16, il est encore question du mot « don ». Vous savez, je vous ai parlé souvent du petit mot « don ». Et c'était la leçon qu'a présentée notre frère Osée la semaine passée. Hein? « Que personne donc ne vous juge ». Donc, fait toujours référence avant. Et ce mot-là, on le voit dans le chapitre 3, verset 1. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ ». Et verset 5 aussi le rappelle. « Faites donc mourir les âmes ». Et le verset 12, « Ainsi donc ». Ces petits mots-là font toujours référence à ce qui se passe avant. Donc, c'est comme si vous mettiez un signe égal. 4 plus 4, donc 8. Et c'est très important de bien comprendre que dans notre verset 1 du chapitre 3, « Si vous êtes ressuscité avec Christ, donc cherchez les choses d'en haut », le verset 1. Et ça se continue au verset 5 où nous rentrons maintenant, c'est marqué « faites donc », mais « donc faites mourir les membres qui sont dans la chair », etc., etc., qui sont sur la terre. Paul a pris le temps d'établir le côté théologique dans les passages précédents. Et là, il nous rend, il dit maintenant, on va faire de l'application pratique à la théologie. Alors, la théologie, l'exégèse des textes, tout ça, là, c'est des grands mots à coucher dehors, là. Mais il va vous montrer maintenant qu'est-ce que ça veut dire. Si nous comprenons bien ce qu'il vient de dire, voilà notre application pratique. On va toucher encore ce qu'on appelle le maintenant, mais le pas encore. Allez dire à un enfant, je te donne un bonbon, tu es déjà propriétaire d'un bonbon, mais tu ne lui donnes pas. Lui, il s'en fout comme l'an 40 de savoir qu'il est propriétaire d'un bonbon s'il ne peut pas l'avoir, le déballer puis le mettre dans sa bouche. Mais il est propriétaire du bonbon, c'est le maintenant, mais il l'a pas encore, ça c'est le pas encore. Il va l'avoir plus tard. Le salut est comme ça. Nous sommes assis dans les lieux célestes, ressuscités avec Christ. C'est tout l'enseignement de Paul, mais on est sur terre, pogné dans notre corps de mort. Ça, c'est le maintenant. Et assis dans les yeux célestes, c'est le maintenant aussi, mais pas encore. Donc, on va pas mal toucher ça ce matin dans nos passages. On va lire des versets 5 à 17. Alors, Colossiens, chapitre 3, versets 5 à 17. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes, qui pourrait sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni chite, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entaille, de miséricorde ou de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Et là, il donne toutes les applications pratiques à ce qu'il vient de dire là, toutes ces qualités-là. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. On a beaucoup de stock dans ce passage-là ce matin. Faites mourir, ça veut dire tuer. Tuer est un acte volontaire. Et la parole de Dieu nous dit clairement que lorsqu'on traite un frère de toutes sortes de noms, c'est comme si on l'avait tué. Et c'est intéressant de voir comme quoi que les mauvaises actions viennent du cœur. Pourtant, on parle d'action, mais on parle de mauvaises actions, ça vient d'abord du cœur. On a fomenté, vous comprenez le mot fomenter? OK, c'est planifier à l'avance des actions, et ensuite, on passe à l'action. Hein, fomenter. Et on voit que la méchanceté est dans notre cœur. J'ai souvent dit, et que j'y tordrais le cou à lui. J'ai même employé ça des fois quand on parle à des couples. Je disais, comme quoi, que comme époux, on avait eu le goût de tordre le cou de notre épouse et notre épouse. Attends, c'est vraiment pas des paroles que je devrais dire, qu'on devrait dire. On parle de la méchanceté de notre cœur. Il en parle beaucoup là-dedans, notre ami Paul. On va développer ça. Donc, « faites mourir » signifie de tuer les membres qui sont sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Attention, ça ne veut pas dire de prendre ça au pied de la lettre. Ça ne veut pas dire qu'on doit se blesser physiquement. Ça ne veut pas dire qu'on doit se flageller, comme c'est arrivé dans le passé, et que ça arrive encore, afin de tuer le péché qui est en nous et de gagner une faveur quelconque. Même des grands hommes comme Origène, à cause de ses mauvaises pensées, s'est fait castrer volontairement. Est-ce que vous pensez, messieurs, je parle pas aux dames, mais messieurs, que ça a changé les pensées d'Origène? Pas pantoute, n'est-ce pas, messieurs? On se comprend bien, hein? Tuer la chair ou couper des morceaux de la chair pour expier un quelconque péché, ça ne change rien. Pas plus que s'arracher les deux yeux ne va changer mes pensées. Mon père qui est rendu un arrière-grand-père, dit chez un homme, il dit, même si tout le reste du corps fonctionne pas, il dit, la pensée, la convoitise est toujours là. Il parle d'un homme, on est des hommes, mon père et moi. Vous comprenez? Le péché est là. Donc, il nous dit de faire mourir les membres qui sont sur la terre. Et donc, on doit faire attention, car nous luttons tous contre le péché. Toi et puis moi, on lutte contre le péché. Si tu luttes contre le péché, attention, il y en a qui disent « je lutte contre le péché », mais la lutte n'est pas trop forte, ils font même pas un round. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut lutter contre le péché. Et il parle des membres qui sont sur la terre. Dans la traduction Sommer, il le traduit un petit peu différemment. Il le traduit « ce qui dans nos membres est terrestre ou tout ce qui est dans notre vie qui appartient à la terre. » Alors, c'est pas une question de membres. C'est tout ce qui est péché qui appartient à la terre. Car lorsque Adam et Ève ont été condamné, si je peux dire, suite au péché, c'est toute la terre qui a subi les conséquences du péché. Pas juste Ève, pas juste Adam, mais toute la terre, incluant les animaux, incluant tout ce qu'il y a sur la terre. À un tel point que non seulement Dieu va détruire notre corps par la mort, bien entendu, mais la terre va être détruite aussi. C'est pour ça qu'il va nous donner une nouvelle terre, des nouveaux cieux, un nouveau corps, et dans tout cela, la justice habitera. Car s'il y a bien quelque chose qui est touché sur notre terre, c'est bien l'injustice. Le monde est injuste. Êtes-vous d'accord avec moi? Dans tous les pays, sur toute la terre. Hein? Alors, intéressant de regarder ça. Même au niveau des animaux. Hein? Il y a de l'injustice. Hein? Il y en a qui mangent les autres, etc. Okay? C'est spécial de voir ça, comment que la plus grosse mange la plus petite, puis ça va jusqu'en haut, là, puis finalement, c'est l'homme qui mange celui qui a l'autre bout. Hein? L'injustice. Même si nous sommes de nouvelles créatures, il nous parle que nous sommes avec des membres qui sont sur la terre. Alors, je vous pose la question. Même si 2 Corinthiens 5, 17 nous dit que nous sommes de nouvelles créatures en Christ, est-ce qu'on est des nouvelles créatures ou on n'est pas des nouvelles créatures? Pourtant, Paul écrit aux Colossiens ici, les Colossiens, que je sache, Ils sont dans la ville de Colosse, et la ville de Colosse est sur la terre, et il n'écrit pas à des morts, il écrit à des vivants, en leur disant ou les Corinthiens, comme dans le passage dans Corinthiens, vous êtes de nouvelles créatures. Si je suis une nouvelle créature, je suis bien sur terre, ici, à Montréal, les deux pieds sur le plancher, est-ce que je suis une nouvelle créature ou je ne suis pas une nouvelle créature? Je vous relance la question. Nouvelle créature parce qu'on est habité sur le Saint-Esprit. Pourtant, il nous dit pas qu'on est une nouvelle créature, il dit « faites donc mourir ». Paul parle dans ce passage-là, à partir du verset 1, « si donc vous êtes ressuscités en Christ », donc si vous êtes des nouvelles créatures, mort, enseveli, ressuscité avec Christ, nouvelle créature, donc au verset 5, il dit « faites donc mourir les membres ». Si je dois faire mourir les membres, est-ce que je suis une nouvelle créature ou j'ai encore la vieille créature? Richard parle de sanctification. Pourtant, Paul, quand il écrit à l'église de Colosse, chapitre 1, verset 1, s'il vous plaît, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ. Donc, les gens de Colosse n'ont pas besoin de sanctification parce qu'ils sont saints. Vous comprenez toute la dualité du maintenant et pas encore? Nous sommes en Christ de nouvelles créatures. Nous sommes en Christ saints. Nous sommes en Christ, comme Huguette a dit, remplis du Saint-Esprit, mais nous ne sommes pas encore ressuscités avec Christ. Nous sommes morts avec Christ sur la croix. Oui, ressuscités. La parole de Dieu nous dit que nous sommes déjà assis dans les lieux célestes. Pourtant, que je sache, on est tous assis à Rosemont ce matin, ici à Montréal. Maintenant, pas encore. Nous l'avons maintenant tout cela, mais nous ne l'avons pas encore, parce que nous l'aurons au ciel. Et nous sommes de nouvelles créatures qui sont pognées, c'est un bon mot français, hein? Pognées, pris dans un corps de mort. Paul le dit très, très, très bien. Je suis pris dans ce corps de mort. Je fais le mal que je ne veux pas faire et je ne fais pas le bien que je veux faire. Et je suis certain que chacun de nous ici, à moins que vous vous regardiez dans le miroir le matin et que vous dites « je suis parfait et je ne pêche pas », si vous dites cela, j'aimerais vous voir après l'école du dimanche et vous montrer à quel point vous n'êtes pas plus parfait que moi ou qu'un autre. On le sait très bien que nous ne sommes pas des saints et des saintes. Et ce que Richard dit était rêvé, que nous avons besoin de sanctification dans la marche de notre vie de tous les jours, que nous avons besoin de travailler à la pureté de nos actions, pureté de nos pensées, etc. Et c'est ça que le passage veut nous dire. Oui, nous sommes saints, mais nous n'avons aucun mérite dans cette sanctification-là. Je ne suis pas saint parce qu'un matin, je me suis levé et j'ai dit, Dominique, hic, t'es beau, t'es fin, t'es gentil, t'es saint. Non, 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 non. Nous sommes saints parce que Christ nous a sanctifiés et a tout payé. Aucun mérite, seulement les mérites de Christ. Et ça, on doit s'en rappeler pour l'éternité. Nous ne méritons rien. Il le cite plusieurs fois dans le passage qu'on lit ce matin. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Et là, il nous dit c'est quoi les membres. Et là, on passe dans toute une sorte de péché associé à ces membres. Ça comprend pas tous les péchés, OK? Mais ça en comprend quelques-uns importants. N'oublions pas que nous sommes à Colosse. N'oublions pas qu'à Colosse, il y a plusieurs religions. Rappelons-nous ça. Plusieurs religions qui sont là. N'oublions pas que certaines religions ont un culte de prostitution sexuelle pour les, quel que soit l'idole, Astarté et compagnie. N'oublions pas tout ça. On est dans ce domaine-là, là. Donc, les péchés sexuels sont fortement mentionnés. Car ceux qui se convertissent sortent de là. Et c'est pas très différent de notre monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Lorsque nous pensons que des frères et des sœurs vont venir à Christ, on va les appeler frères et sœurs, et ils vont venir d'un arrière-plan difficile. L'homosexualité est un péché que Dieu a en horreur. Mais Dieu est mort pour qu'un homosexuel, une lesbienne, puisse venir et être délivré de son péché. Ne mettons pas ces péchés-là sur un rang plus élevé comme péché que celui qui pratique la sexualité à débridée avec à peu près n'importe qui et n'importe quand, Vous comprenez ce que je veux dire? On vit dans un monde hypersexualisé sur tous ces aspects. Ne nous attendons pas à ce que ça ne nous choque pas de voir ça. Ça va nous choquer de plus en plus. Mais ces gens-là meurent sans Christ et ils ont autant besoin du salut que toi et moi qui se pensons moins pécheurs que ces pécheurs-là. Donc le péché, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de péchés touchant la sexualité. Il parle de l'impudicité, hein? L'impudicité traduite dans d'autres passages par la débauche ou d'autres traductions par l'inconduite viennent du mot pornéa qui est un péché sexuel. Avec ce mot-là, on fait porné qui est prostitué et avec ce mot-là pornéa, on fait en français pornographie. OK? Ça s'élargit dans tous les domaines ou toutes les formes de rapports sexuels illicites. L'impudicité. Oui, mais nous, les chrétiens, ça ne nous touche pas. Mais non, hein? 50, en Amérique du Nord, la dernière statistique que j'ai vue en Amérique du Nord, on va parler des pasteurs parce que ça, c'est des hommes beaucoup plus sains que les autres. 50% des pasteurs en Amérique du Nord ont des problèmes avec la pornographie. Pas juste 10%, là. 50%. En Amérique du Nord, 80% des hommes ont des problèmes avec la pornographie. Il y a différentes formes sur la pornographie, hein. Ça veut pas dire qu'ils vont pitonner leur ordinateur, qu'ils vont vautrer dans la porno sur leur laptop, là, sur le Internet. C'est pas ça que je veux dire. Quand on regarde la télévision, messieurs, puis qu'on a la manette en main, OK, est-ce qu'on est aussi vite que notre femme a changé de poste? Le péché est collé à notre peau. Donc, l'impudicité, l'impureté, traduit encore par souillure ou malpropreté, c'est plus général que la débauche, allant jusqu'aux pensées et aux intentions. Beaucoup plus dur à spotter. C'est pour ça comme quoi qu'on est secret dans cela, par le fait comme quoi que personne, incluant la personne la plus proche de nous, c'est-à-dire notre épouse ou notre époux, ne peut lire nos pensées. Personne. Bonne ou mauvaise. Sauf Dieu. Dieu sait tout, Dieu voit tout, Dieu entend tout, et Dieu va à un moment donné nous le dire. OK? Il va nous le rappeler, hein? Sans parler de péché qui ne sera pas pardonné, là, mais quand même des pensées, hein? Alors, ça, c'est dans ce contexte-là, l'impureté. Et les mauvaises actions commencent par les mauvaises pensées. Si tu cultives une mauvaise pensée, qu'est-ce qui va arriver? Ça va pousser, parce que tu es un bon cultivateur. Okay? Donc, on va passer à l'action. Les passions, c'est ça, les passions, okay? Les mauvaises passions traduites dans l'ensemble. Ça a une connotation sexuelle, mais ça a une connotation sexuelle physique, tandis que les mauvais désirs parlent plutôt des pensées sexuelles. Tout ça, si vous remarquez, c'est par rapport à un vice en général. Dieu avait intentionnellement créé Adam et Ève, mâles et femelles, hommes et femmes, puis leur a dit, ayez du fun, puis reproduisez-vous. J'ai ajouté, ayez là, du fun, là, mais remplissez la terre. Et par le péché est rentré dans tous les aspects de la vie de l'homme et de la femme, incluant la sexualité. Et aujourd'hui, c'est un des péchés qui est le plus répandu à travers le monde, pas aujourd'hui, depuis toujours. Et quand vous lisez l'Ancien Testament depuis la création, ce péché-là est constamment là, sous toutes ses formes. Et c'est assez particulier de voir que Dieu est patient avec l'humanité. Quand vous regardez Sodome et Gomorre, la coupe de la patience de Dieu était arrivée à son terme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé le feu du ciel et a rasé Sodome et Gomorre. Si Dieu devait faire ça avec toutes les villes atteintes du péché comme Sodome et Gomorre, il y aurait beaucoup de place pour les oiseaux du ciel et pour les animaux sur la terre. Il n'y aurait plus grand monde sur la terre, selon moi. Le péché atteint, et à un moment donné, le péché va atteindre son comble et Dieu va revenir. Ça, c'est vrai. Alors, sexualité sous diverses formes, et comme j'ai dit, n'oublions pas que nous sommes dans une ville où il y a un culte à différentes divinités, entre guillemets, petit d, qui inclut la sexualité. Mais après, on change de registre, si on veut. Alors, on parle d'impudicité, impureté, passion, mauvais désir, et la cupidité. Deuxième grand péché qu'il y a sur la terre, qu'est-ce que c'est que la cupidité?
L'amour de l'argent.
L'amour de l'argent, l'amour des possessions, la recherche des possessions. Dans la traduction sommaire, c'est traduit au lieu de cupidité, soif de posséder. Alors, on peut être cupide sans avoir une scène. On peut être cupide en désirant, en convoitant ce qui n'est pas à nous et ce qui appartient à l'autre, et même ce que nous ne pouvons pas nous acheter. La convoitise n'existe pas dans notre monde en Amérique du Nord. La convoitise, quand on prend des cours en publicité, pour ceux qui ont fait des cours de communication, etc., c'est la base de la publicité. Nous devons trouver le moyen que les gens trouvent que acheter une telle voiture, c'est la source du bonheur. Aller en vacances dans tel pays, c'est la source du bonheur et de la paix. Pensez à toutes les publicités, qu'elles soient à la télévision, à la radio ou écrites, c'est toujours la même chose, la convoitise. Et quand on a une voiture, rappelons-nous ça, la première fois que vous êtes acheté une auto, ma femme et moi, on s'est acheté une voiture, flambant neuve, en 1974, notre première auto. Hey, c'était the best. C'était le plus bas de gamme, ça n'existe même plus aujourd'hui, de ce que Datsun faisait. Datsun, c'est Nissan aujourd'hui. Datsun B210. Mais un coup qu'on a un propriétaire de cette petite voiture, qu'est-ce qu'on veut? On veut une plus grosse voiture. On a ça, on veut un peu plus gros. On gagne ça, on veut ça. On gagne ça, on veut ça. La cupidité, la convoitise. Et ce qui est rattaché à la convoitise, c'est quoi? Regardez dans votre texte.
L'idolâtrie.
Nous idolâtrons l'argent, les possessions, quelles qu'elles soient, et c'est très, très, très visible dans notre monde capitaliste. Pourquoi toujours, toujours, toujours plus? Et intéressant de voir les personnes les plus cupides, entre guillemets, les plus qui recherchent le plus, on penserait que ça serait les personnes les moins riches, les plus pauvres, mais ce sont les personnes les plus riches. Plus on est riche, plus on veut être riche, plus on en veut. Intéressant de voir. Plus on est riche, moi, ce que j'ai remarqué dans le monde de travail que j'étais, plus les gens étaient riches, plus ils sont cheap. C'est intéressant de voir cela. D'ailleurs, quand on parle de certaines personnes riches dans la parole de Dieu, quand Jésus parle, il dit qu'il est plus difficile à un riche de rentrer au ciel, ou passer par la porte, que dans le trou d'une aiguille, dans le chat d'une aiguille, OK? Que passer un chameau dans le chat d'une aiguille. Quand le jeune homme riche est venu voir Jésus, lui dire, « Nous, moi, je fais ça, je fais ça, je jeûne, je fais ça, je sais tout ça, je veux te suivre. » Qu'est-ce qu'il lui a dit? « Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis suis-moi. » Et là, on a vu quelle était l'idole dans sa vie. Et il est parti tout triste. Est-ce qu'il est parti vendre tout ce qu'il avait?
Non.
Non, on n'en entend plus parler. Intéressant de voir, la richesse est une idole dans notre vie. C'est ça que Satan a voulu faire avec Job devant Dieu. Satan se permet de rencontrer Dieu et Dieu lui dit, « As-tu vu mon serviteur Job, un homme intègre, un droit? » Est-ce qu'il était parfait, Job? Non, il n'était pas parfait. C'est comme toi puis moi, pas parfait. Mais un homme droit et intègre. Satan, il dit, « Voyons, c'est normal, tu le remplis de richesse, tu lui donnes tout ce qu'il veut, il est bien, il est tout, pas de problème. » Et Dieu lui permet de lui prendre tout, même en fonction du temps, même sa santé. Et Job ne maudit pas Dieu. On voit l'attitude du cœur de Job. Est-ce que Job, je vous l'encourage à lire le livre de Job. Si vous pensez que vous passez par des temps difficiles, allez lire le livre de Job. Est-ce que Job en a arraché? Oui. Est-ce que Job s'est arraché les cheveux qui y restaient? Probablement. Est-ce qu'il se posait des questions pourquoi Dieu lui enlevait tout ça? Certainement. Mais il n'a jamais maudit Dieu.
Voilà.
Intéressant de voir ça. Et Dieu l'a béni après au sanctuaire. Bon, on continue. La cupidité. Alors, quel est l'antidote à la cupidité qui est une idole? La libéralité donnée, oui, ça peut être quelque chose, mais c'est pas un antidote nécessairement. Le contentement. Le contentement. J'ai besoin d'apprendre à être content, satisfait de ce que j'ai. Ne mélangeons pas le contentement et l'ambition. C'est autre chose, l'ambition. J'ai rien contre quelqu'un qui a de l'ambition dans la vie, en autant que l'ambition ne devient pas sa vie. L'ambition, dire, ben moi j'ai un travail, je veux progresser dans la compagnie, je travaille fort, mais si l'ambition devient toute sa vie, que son épouse ne le voit plus jamais à la maison, tellement il travaille d'heures par semaine afin d'arriver là, oh là, ça devient une idole dans sa vie, et le contentement n'est pas là. Mais le contentement, merci Seigneur pour ce que tu m'as donné aujourd'hui. J'ai mangé des patates pour déjeuner, j'ai mangé des patates pour midi, j'ai mangé des patates pour souper, que le nom de l'Éternel soit béni. Nous ne vivons pas comme ça, d'accord? Nous n'avons pas ces difficultés-là. Dans d'autres pays, ils l'ont. Puis nous, ici, on n'a pas cela et on n'apprend pas à vivre dans le contentement. Le contentement, c'est reconnaître que Dieu nous a donné ce que nous avons besoin. Dans le désert, quand Israël était dans le désert, Dieu leur a donné ce qu'ils avaient besoin. Vêtements qui ne se sont pas usés, boutons qu'ils n'ont pas perdus, souliers qui ne s'usaient pas, et ils mangeaient de la manne tous les jours. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont murmuré contre Dieu. Ils n'étaient pas contents. Dieu leur a donné, je vais vous donner des cailles jusqu'à temps que ça vous sorte par les oreilles. Le contentement. Bon, ça c'est l'antidote. Okay. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Donc, il veut nous rappeler ici que, attention, ne jugez pas les autres. Vous étiez, Dieu vous a fait grâce et révélé à vous, louez le Seigneur, remerciez-le, Dieu vous fait remarquer, vous étiez comme ça. Vous marchiez dans ces péchés. Mais Dieu s'est révélé à vous et nous dit maintenant que vous le connaissez, ne marchez plus dans ces péchés. Ne marchez plus dans ces péchés. Hein? Alors, à cause de ces péchés, les croyants ne devraient avoir aucune part avec ces péchés. Nous sommes délivrés de la colère de Dieu. Mais j'aimerais qu'on tourne dans Hébreux 12, versets 5-6. On va commencer au verset 4. Vas-y, Christine.
Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur, et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime et frappe de verges tout fils qu'il a agréé.
OK. Il y aura de la correction dans nos vies. Il nous dit au verset 4, et c'est très, très bon pour nous autres ici au Canada, okay, à Montréal. Nous n'avons pas résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Est-ce que nous allons résister jusqu'au sang? Est-ce que les temps difficiles vont venir? Définitivement. C'est clair, je ne suis pas un prophète, mais regardons la situation qui évolue tranquillement. Nous allons perdre des avantages. Nous allons perdre des libertés et nous allons devoir lutter peut-être jusqu'au sang. Peut-être pas de mon vivant, peut-être du vivant de mes enfants, j'en sais rien. Mais c'est sûr qu'on va arriver là. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Et là, il nous parle, il nous dit, je corrige, Dieu dit, je corrige mes enfants. Nous sommes ses enfants. Il va nous corriger si on marche tout croche, afin de nous ramener dans le droit chemin. Alors maintenant, je ne dis pas que parce que tu as perdu ta job cette semaine, c'est Dieu qui te corrige parce que tu marches tout croche. Si tu as tapé la grippe cette semaine, c'est Dieu qui te corrige. Si t'as, n'importe quoi. C'est pas à nous de juger ça. C'est une relation qui se fait entre Dieu et son enfant. L'enfant le sait. Ou il va le savoir un moment donné. Il va le comprendre. Dieu le sait. Et Dieu veut amener son enfant dans le droit chemin. L'apôtre Paul est un bon exemple. Dieu avait choisi l'apôtre Paul pour devenir son enfant. Sauf que l'apôtre Paul, il était trop bouché, trop têtu. Il n'entendait pas le message, il voulait rien savoir. Quand Dieu est allé le chercher, ça a été dur pour l'apôtre Paul. L'apôtre Pierre a été repris par Paul parce qu'il ramenait les chrétiens. Mais il faut, ouais, ça serait peut-être pas mauvais, vous soyez un peu comme les Juifs, etc. On appelle ça judaïser. Paul l'a repris. Deux fois, la deuxième fois, c'était plus sévère. On se fait reprendre par Dieu, qui peut employer des frères, Quand un frère vient nous voir ou une sœur vient nous voir et nous fait une remarque, n'oublions pas qu'une remarque a toujours un fond de
vérité.
Peut-être bien qu'il ne comprend pas tout. Il y a peut-être, mais il n'y a pas complètement tort. C'est comme une chicane de couple, un différend de couple. Je dis toujours, c'est 100% tort l'un, 100% tort l'autre. C'est sûr qu'il y a des... Mais on est responsable. Dans... Il n'y a pas d'innocent dans une chicane de couple. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a de la responsabilité. Et quand Dieu nous reprend, c'est parce qu'il nous aime. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que nous ne sommes plus sous la colère de Dieu, qui est la condamnation. Vous irez voir Romains 8, 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Romains chapitre 8, 1, puis toute la suite qui suit après. Mais il y a de la correction parce que nous sommes ses enfants. Je ne corrigeais pas, mais mes enfants sont grands maintenant, là, mais je ne corrige pas les enfants de mon voisin. Mais je corrigeais mes enfants. Pourquoi? Parce que j'aimais plus mes enfants que les enfants de mon voisin qui ne sont pas mes enfants. Vous comprenez ce que je veux dire? Je reprends mes petits-enfants ou je donne des conseils à mes enfants par rapport à mes petits-enfants parce que ce sont mes enfants. Même chose, Dieu. Dieu ne fera pas moins bien que nous faisons avec nos enfants, il va faire mieux. OK, donc, intéressant de voir ça. Verset 7. Rappelle-toi, OK, on va au verset 7, la colère de Dieu à cause de ses péchés. On passe tout au verset 6, là. 3, verset 7. Il nous rappelle qu'on marchait dans ces péchés-là. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de vos bouches. Renoncer, ça veut dire retirer ses vêtements. Je trouvais ça intéressant dans le texte original, le mot. Ça veut dire retirer ses vêtements. Se mettre à nu afin de pouvoir être
habillé.
Et on en revient un peu plus tard. C'est pas ma carte que j'ai trouvé ça tout seul. J'étais fier de moi, tu sais. Intéressant, d'un peu plus loin, allez au verset 9. OK, verset 12, excusez-moi, verset 12. Alors, le verset 12, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité. » On ne peut pas se revêtir de l'amour que Christ a pour nous si on ne sait pas dépouiller des vieilles guenilles qu'on avait avant. Renoncer vient de retirer ses vêtements. Si je retire la colère, OK, l'amertume profonde, ressentiment, si je retire l'amertume, et ne me dites pas, je ne suis pas quelqu'un d'amer. Juste la manière que tu vas le dire. Nous sommes des gens amers. Nous sommes des gens qui avons de la difficulté avec l'amertume. Nous sommes des gens qui avons de la difficulté à pardonner. Oui, on peut pardonner des lèvres. Un exemple. J'ai été dans une église il y a quelques mois de ça, et j'ai un monsieur qui s'appelle Bourdon. Monsieur Bourdon. Lui, il connaît. Et j'ai fait une plaisanterie à Monsieur Bourdon. Je venais de regarder la veille tout un documentaire sur pourquoi les abeilles meurent à travers le monde, etc. Les bourdons. Et les bourdons sont encore plus atteints que l'abeille. Donc, les bourdons meurent. Et j'ai fait une plaisanterie. On va prendre soin de toi afin que tu ne meures pas comme les bourdons. Il l'a pas pris. Et qu'il l'a pas pris. Fait que là, j'ai été demandé pardon. Je te demande pardon. Je voulais pas te blesser. Je voulais juste faire une plaisanterie. Puis lui, là, les versets, là, je les ai reçus dans la face, là. Bon. Vous savez qu'on doit faire attention à ce qu'on dit. Je dis pas qu'on doit pas plaisanter. Ça dépend avec, je le connaissais. T'sais. Et 3-4 mois après, je reviens dans cette église, j'y serre la main. Je viens vous donner la main. Il ne veut pas me donner la main. J'ai dit, écoute, tu m'as pardonné. Il m'a donné la main. Comprenez-vous ce que je veux dire? Les racines d'amertume. Les racines. Je veux pas lui. Il n'est pas pire que moi, cet homme-là. On a ça aussi, nous autres. On n'oublie pas. On rencontre cette personne-là. La première chose qu'on se rappelle, pas que je dois l'aimer, pas que je lui ai pardonné, mais il m'a fait ça. Oui, mais je l'ai pardonné. C'est des racines. Intéressant de voir que, est-ce que Paul en veut à ses bourreaux? Jamais. Il dit, Dieu l'a placé, et là même, le nom de Christ éclate encore plus. L'amertume a des racines profondes. si on ne travaille pas les racines d'amertume dans notre cœur, maintenant, ça va aller en empirant, en vieillissant. Frères et sœurs, renonçons à l'amertume. Dépouillons-nous, retirons nos vêtements. Bon, amertume, colère, méchanceté. Terme général désigne le mal. Méchant, il n'est pas bon, il est méchant. Et on le voit clairement à travers le monde. Après, il parle de la calomnie. Il n'y a pas de calomnie dans l'Église de Jésus-Christ. Aucune calomnie. Vous êtes d'accord avec ça?
Non.
Non, personne qui a l'air d'accord. Personne qui dit oui. Hein? Le mot grec de calomnie, c'est blasphémia. Alors, demandez, pensez pas que je parle du grec, mais... Et ça veut dire, plutôt le mot calomnie, on emploie calomnie contre l'humain, et on emploie le mot blasphème contre Dieu. C'est le même mot. Donc, attention de ne pas blasphémer l'humain que Dieu a créé quand on ne veut pas blasphémer contre Dieu. Oui, Richard?
C'est bon d'apporter. Il y a la calomnie qui est un mensonge contre quelqu'un, puis il y a la médisance qui fait autant de tort, sinon plus, qui est dire la vérité sur quelqu'un, mais tu n'as pas d'affaire à dire.
C'est des cousins. Prenons le petit exemple que j'ai donné tout à l'heure avec Bourdon. Là. La parole de Dieu nous dit de ne pas traiter stupide, insensé, imbécile à quelqu'un. Les plaisanteries peuvent blesser. Est-ce que je dis qu'on ne doit pas faire de plaisanteries? Je ne dis pas ça. Mais je dis qu'il faut faire attention. Une plaisanterie mal à propos peut blesser. On se permet de plaisanter avec ceux qui nous sont plus intimes. Pourquoi? Parce qu'on connaît la situation dans laquelle ils sont. Mais on peut faire une plaisanterie, comme j'ai fait, dans une église où ils viennent de passer à travers une crise, où ça va mal, et je parle de Bourdon qui meurt. Comprenez-vous, là, la plaisanterie, comme, quelle profondeur elle avait, là? Comment il l'interprétait, lui, venant d'un, entre guillemets, d'une grosse gomme de l'association? Pas été très, très lumineux ce matin-là, là, hein? Comprenez-vous? Attention aux plaines. Aux paroles équivoques qui parlent ensuite, OK? Ou déshonnêtes, ou des propos grossiers, au langage obscène, au langage dénigrant, etc., etc., afin de blesser quelqu'un. On le fait. Attention. Comme dirait mon père, tourne ta langue cette fois dans ta bouche avant de parler. Et après, il arrive, ne mentez pas les uns aux autres. Le mensonge est caractérisé par, si on met mensonge, quel nom on mettra à côté? Satan, le prince du mensonge. OK? Donc, c'est caractérisé par Satan. Satan a menti à elle. Caïn a menti à Dieu. Abraham a menti. Sarah a menti au visiteur angélique qui était venu le voir. OK? Ananias et Saphira ont menti à Dieu, menti au Saint-Esprit. Et nous, nous mentons à qui? J'ai juste pris quelques petits exemples. Il y en a tout le long du Nouveau Testament. Ça pourrit les relations à travers toute la famille royale d'Israël et de Juda dans tout l'Ancien Testament. Le mensonge. Alors, verset 9, 10. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses hommes, ayez revêtu l'homme nouveau. Voyez-vous, dépouillés, revêtus. Ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Se renouvelle dans la connaissance. L'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance. Le renouvellement de l'intelligence. Alors, nous sommes des êtres intelligents. Pourquoi nous pouvons dire qu'on est des créations intelligentes. On a été créé à l'image de Dieu. Dieu est intelligent. Sa créature, semblable à lui, homme et femme, est intelligent. Est-ce que nous sommes toujours intelligents? Donc, nous avons besoin de grandir en intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Le premier pas intelligent que nous avons fait, c'est lorsque nous avons reconnu que Dieu est la source de l'intelligence, qu'il a tout pourvu, qu'il a pourvu un grand salut en Jésus-Christ et qu'on a reconnu notre état de pécheur, qu'on lui a... En réalité, on a tout donné à Dieu, tous nos péchés, et lui nous a tout donné. Maintenant, nous sommes des nouvelles créatures, comme quand les enfants y naissent. Rappelez-vous ceux qui ont eu des enfants. Moi, je me rappelle, on a eu 4. Et puis, ils te mettent ça dans les bras, c'est tout petit de même. La seule chose que ça sait faire, c'est chialer. Quand tu l'as de suite, là, bon. Okay, vous rappelez-vous cela, les mamans aussi? Mais on a tout à apprendre à cet enfant-là. Quand on est en Christ, on a tout à apprendre aussi. Et comment allons-nous apprendre? Okay. Sa parole. Si je ne prends pas le temps de lire sa parole, si je ne prends pas le temps de méditer sa parole, je ne grandirai pas. Je vais laisser toutes sortes d'autres enseignements me rentrer dans le crâne et je n'écoute pas ce que Dieu a à me dire. Et sa volonté, c'est que je prenne le temps de méditer sa parole. J'étais à une réunion la semaine passée, le nouveau président du board du CA national, c'est M. Doug Blair. Et M. Doug Blair, il a 74 ans. Il est en pleine forme. Il pète le feu, il est en pleine forme. Puis il nous a apporté la méditation à la dernière réunion qu'on a eue. Il disait, je lis la parole de Dieu, puis ce verset. Comment ça se fait que depuis 50 ans, j'ai pas lu ça? Qui c'est qui a ajouté ça de nouveau? Il n'y a rien de nouveau. C'est qu'on a à ce moment-là, le Saint-Esprit nous montre, parce qu'on est rendu en troisième année, l'importance de lire la parole, l'importance de la méditer, l'importance de la creuser et l'importance de la mettre en pratique. Se borner à l'écouter, c'est comparé à si je me regarde dans le miroir et j'oublie qui je suis quand je quitte le miroir, c'est me borner à l'écouter. Attention, ne nous bornons pas à l'écouter. Nous avons besoin de sa parole. Et tous les jours, nous allons acquérir de la maturité. Afin que nous soyons, comme il le dit à la fin du verset 10, afin que nous arrivions selon l'image de celui qui nous a créés. Notre modèle, c'est Christ. Nous sommes des chrétiens, des petits Christ. Nous voulons atteindre l'image de Jésus-Christ. Méditer, étudier, lire la parole de Dieu. Après, on rentre au verset 11. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni chite, ni ou skite, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Pour nous, ça ne signifie pas beaucoup, ce verset-là. Mais quand on dit à des juifs qu'il n'y a pas de différence entre un grec et un juif, il graffigne. OK? Il n'y a pas de différence entre un homme du peuple de Dieu, un juif, et un païen, un grec, il graffigne. Puis encore, il appuie encore que tu n'as pas compris, il dit, il n'y a pas de différence entre un circoncis et un incirconcis. Le juif qui ne connaît pas le Seigneur se lève et il sac son camp. Ce qu'il veut dire là, c'est qu'il n'y a pas de différence. Nous sommes tous en Christ ses enfants. Et il va un peu plus loin, il parle des barbares après. Les barbares, c'était tous ceux qui ne sont pas juifs ou grecs. Pas de connaissances, pas d'instruction, pas de manière. Et quand il va au site, eux, c'était des barbares. Eux, c'était ceux qui, c'était pas de manière, ça se lavait pas, c'était... Après ça, tu as les animaux. Comprenez-vous? Donc, il met tous les êtres humains, quel que soit leur niveau social, quel que soit leur appartenance raciale ou appartenance religieuse, en Christ, ils sont tous une personne, des enfants. Et pour eux, la colosse, c'est important. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une rapaille de monde, comme j'avais déjà dit au début, là, un melting pot et de religion et de peuplade. Donc, c'est profond, ça. Ceux qui avaient le plus de mal à l'avaler, c'était les Juifs. Puis quand on dit après barbares et chites, c'était les Grecs. Parce que les Grecs, eux autres, étaient un peuple instruit, civilisé, propre, avec des manières, tu sais. OK? Important, ça. OK? Tenez-vous comme du fou. Moi, j'ai été élevé comme quoi... Un enfant, il parle pas à table. OK? Moi, j'ai été élevé comme ça. OK? On met pas les coudes sur la table. Puis si tu te laves pas les mains avant de manger, on mangeait pas. Pas compliqué. Savez-vous, ça, c'est les Grecs. Important ce verset-là pour montrer qu'il n'y a maintenant que tout le monde. En Christ, nous sommes un. Ainsi donc, encore un don, comme des élus saints, des élus de Dieu saints et bien-aimés. Frères et sœurs, quand vous vous sentez mal aimés, allez lire que nous sommes des élus de Dieu. Dieu nous a choisis, il nous a sanctifiés, nous sommes des bien-aimés. Si nous sommes bien-aimés de Dieu, nous devons être bien-aimés les uns entre nous aussi. Hein? Est-ce qu'il y a des bien-aimés faciles à aimer? Est-ce qu'il y a des bien-aimés difficiles à aimer? Exact, OK. Donc, revêtez-vous d'entrailles. Ça doit venir des tripes. Hein? L'entraille de miséricorde, la compassion, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience, toutes des qualités que nous avons naturellement. Non, quand on doit demander pardon, ça vient nous chercher d'être garanti. Pourquoi? C'est l'orgueil, ça nous humilie, l'égoïsme. On reconnaît qu'on a des torts. Et s'il y a quelque chose qu'on n'aime pas, c'est reconnaître qu'on a des torts. Parce que si on reconnaît qu'on a des torts, on reconnaît que l'autre... On doit se revêtir de cela. Méditons. Compassion, bonté, être bon pour les autres, tous les autres. S'humilier, pas que les autres nous humilient, pas humilier les autres, mais nous-mêmes nous humilier. Ça fait du bien. Ça détend, ça nous met à notre place. Ça fait du bien, je vous le dis, moi. OK, douceur, patience, c'est naturel pour tout le monde, ça. Et là, après, dans l'Église, se supporter les uns les autres. Se supporter les uns les autres, c'est pas dire... C'est pas dire, hey, lui, je le supporte, parce que Dieu me le demande. Puis là, on a des bonnes pensées, s'il peut mourir le plus vite possible, j'aurais pu le supporter. J'ai rencontré des couples qui pensaient l'un de l'autre comme ça. Je t'offre, mais j'ai hâte qu'il achève. Alors, ça, c'est pas se supporter les uns les autres. Hein? Se supporter les uns les autres, c'est prendre soin les uns des autres. S'endurer, mais endurer ensemble. C'est pas endurer l'autre. C'est endurer ensemble l'épreuve. C'est tenir ferme ensemble. C'est s'encourager malgré les difficultés. Et quand quelqu'un est dans les difficultés, c'est se mettre à côté d'eux. C'est ça, se supporter les uns les autres. Et le point le plus important qui est là-dedans et qui est répété deux fois, pardonnez-vous réciproquement. Moi, je te demande pardon, tu me pardonnes. Toi, tu me demandes pardon, je te pardonne. Et quand tu ne demandes pas pardon, on pardonne. Dieu me pardonne des péchés que je ne vois pas dans ma vie. Et il me les pardonne. Puis l'exemple après est donné, Christ, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et c'est un pardon complet. Christ, on a eu une petite discussion dans notre église de quartier l'autre jour, justement, sur les péchés non pardonnés. On regardait ça, qu'on passerait en jugement, mais pas en jugement. Dieu a pardonné tous nos péchés. Exactement ce qui va se passer quand on va voir face à face. Je pense que nous allons tomber à genoux en reconnaissance au pardon pour nos péchés. Puis là, il nous dit de faire la même chose. Est-ce que c'est facile? Non. Quelles sont les personnes à qui c'est le plus difficile de pardonner? Oui, les plus proches. Oui, les vrai. Plus proches. Pourquoi? Parce qu'on les voit tout le temps. Et puis, ça reste en face de nous autres. Par contre, si nous ne pardonnons pas, qu'est-ce qui arrive? Rancune, amertume, haine. Quelqu'un que je connais de proche de moi est décédé il y a plusieurs années. De cela, rongé par l'amertume de quelqu'un dans sa jeunesse, disant, je ne peux pas pardonner. Ce qui est dommage, c'est que je ne sais pas c'était quoi la douleur, ok? Je ne connais pas le péché. C'est sûrement un péché grave. Mais dire, je ne peux pas pardonner, c'est ne pas vraiment comprendre tout ce que Christ nous a pardonné. Et c'est ne pas demander à Dieu de nous aider. Donc, le pardon dans l'Église de Jésus-Christ, qu'elle soit locale, universelle, c'est plus facile. Je pardonne à n'importe qui là-bas, à un autre pays, c'est très facile. Mais dans l'Église locale, est important. Mais après, il dit au verset 14, il parle du pardon. Il a parlé de tout ce qu'on devra revêtir, là, les entrailles de miséricorde, etc. Il dit, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Frères et sœurs, si nous manquons d'amour, nous allons manquer de pardon. Oui. Si on manque d'amour, on va manquer d'humilité. Si on manque d'amour, on va manquer de tout cela ici. Et on doit s'aimer les uns les autres. J'ai pas dit qu'on doit s'embrasser les uns les autres. J'ai pas dit qu'on doit se donner une grande accolade dans le dos. Je n'ai pas dit qu'on doit dire « je t'aime ». Pas ça. On doit aimer en action. L'amour n'est pas qu'un sentiment. L'amour est une action qui deviendra peut-être un sentiment. Mais si on se fie à nos sentiments seulement, il y a des matins où on aime beaucoup moins. Okay? Mais si on a décidé d'aimer, on va quand même aimer ce matin-là. Okay? Et c'est le problème dans le couple quand arrivent des difficultés. Et pour ceux qui sont mariés, vous allez avoir des difficultés. Je le dis. Hein? Vous allez avoir des tensions. Vous allez avoir toutes sortes de choses dans le couple qui arrivent. Mais si on n'a pas décidé d'aimer malgré les difficultés, c'est là qu'arrivent les pensées comme quoi que la sortie de notre difficulté, c'est la séparation, le divorce, la fuite au lieu de la solution. Est-ce qu'il y a des solutions? Je pense que Dieu a en réserve pour moi, pour nous, toutes sortes de solutions. Si Dieu a dit que le mariage c'était jusqu'à la mort, est-ce qu'il va nous donner des solutions pour aller jusqu'à la mort?
Oui.
Définitivement. Est-ce que ça va être difficile? Oui. Est-ce que ça peut prendre du temps? Oui. Est-ce que ça veut dire que je vais attendre que l'autre, mon époux ou épouse, amène les solutions? Non. Je dois aimer malgré les solutions. Avant que tu donnes un exemple, j'ai un petit exemple. Quand j'étais jeune homme à 16 ans, j'ai été travailler dans un camp, dans les cantons de l'Est. C'était un camp où ils ramassaient tous les jeunes des milieux défavorisés, qui arrivaient de tous les milieux. Et généralement, c'était pas des beaux milieux. Et il y a un monsieur, j'ai jamais oublié son nom, il s'appelle Monsieur Pinchot. Sa femme venait de le flanquer là, elle était partie avec un autre gars, avec trois garçons. Et il venait porter ses garçons, en tout cas, c'est le camp du Friendly Home, ça s'appelait, là-bas. Et puis, j'ai entendu, quand on est jeune, on est écornifleux, quand on est jeune, on écoute, hein. Et j'entendais parler avec M. Wilkinson, qui était le directeur du camp cette semaine-là. Il disait, voulez-vous prier avec moi pour ma femme? J'attends que ma femme revienne. J'aime ma femme. Et moi, je suis un jeune homme de 16 ans, tu sais. Non, rien non. J'aime ta femme. Elle a sacré son camp qu'un autre. Et ça a trotté, ça, longtemps, 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 longtemps. On peut aimer malgré le péché. Parce qu'on décide d'aimer. Ça ne veut pas dire que le sentiment est un sentiment d'amour. Probablement qu'il avait un sentiment, si je le pointe, lui, j'y tourne le cou. Peut-être qu'il avait un sentiment à sa femme. Mais il avait décidé d'aimer et d'attendre qu'elle revienne. Ça m'avait vraiment touché comme jeune homme. C'est cet amour-là qu'on doit avoir dans l'Église, les uns pour les autres. Vous lirez la suite du passage, l'amour qui est le lien de la paix, après qui nous donne la paix. Et le verset 16-17, oui, on a eu le temps de les lire. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, encore la parole, OK? Instruisez-vous, OK, dans la parole, et exhortez-vous. Ça veut dire que si quelqu'un a besoin d'une exhortation, ça a une connotation négative, l'exhortation, mais elle a une portée positive, OK? L'exhortation, c'est, attention, tu te mets les pieds dans... Quand tu te mets les pieds dans quelque chose, là, OK, tu rentres la même odeur dans la maison. Ça te suit, OK? Exhortez-vous, instruisez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc, si nous sommes ressuscités avec Christ, tout ce que nous faisons, verset 17, doit être fait ou en parole ou en œuvre au nom du Seigneur Jésus. Est-ce que je peux dire que depuis que je me suis levé ce matin, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait en manière que Christ a été glorifié. On doit marcher comme ça. Terminons par la prière. Père Céleste, merci pour ta parole, ta patience avec nous, ton amour pour nous, ta longanimité, Seigneur, un pardon éternel. Combien j'ai besoin d'apprendre de tous ces qualificatifs que je dois me revêtir, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta patience pour nous encore. Merci, Seigneur, de ton esprit qui vient en nous. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Gloire à toi pour ton Église. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as aimés, que tu as tout payé. Au nom de Jésus. Amen.